Je vous invite à suivre tout de suite notre émission spéciale de l'audience congolais avec Jean-Claude Tumba Kamanda à la présentation.
Bonsoir, spécial dialogue en congolais avec Vital Kamerhe, ce mercredi 24 septembre. Le président de l'Assemblée nationale est dans ce studio. Il répondra aux différentes questions, notamment la situation sécuritaire à l'Est, le fonds social marqué par des grèves comme celle des enseignants, des infirmiers et du personnel médical. Vital Kamerhe répondra aussi aux questions sur le budget 2009 attendu et le rôle de l'Assemblée nationale qu'il dirige. N'hésitez pas à réagir, comme vous le faites déjà. Le président de l'Assemblée nationale, je vous rappelle, est notre invité unique dans ce spécial dialogue en congolais. Pour vous qui nous suivez, n'hésitez pas donc à nous envoyer vos réactions en cours d'émission. Bienvenue à tous dans cette émission.
Dialogue entre congolais. Vous voulez participer à l'émission? Réagissez par SMS au 081 05 15 778 ou appelez-nous au 081 890 66 78.
Spécial dialogue entre congolais avec Vital Kamerhe. Bonsoir, Monsieur le Président.
Bonsoir.
Voilà, c'est une preuve que vous êtes bel et bien dans ce studio. Je vous l'ai dit, nous abordons trois thèmes, la situation sécuritaire à l'est du pays, le fonds social et le rôle de l'Assemblée nationale qui, disons-le, est en session budgétaire. Premier thème, la situation sécuritaire à l'est du pays. Mais puisque vous êtes quand même dans ce studio, Monsieur le Président, une information vient de tomber, c'est la nomination par le président de la République, Joseph Kabila, des maires, des commissaires de district et leurs adjoints, des bourgmestres et leurs adjoints, ainsi que des administrateurs de territoire et leurs assistants. Beaucoup de personnes nommées ont été confirmées à leur poste. Peut-être un petit commentaire de votre part.
Non, je ne peux pas commenter le décret du président de la République. Donc, pour le moment, c'est l'ordonnance présidentielle. Oui. Je crois que le président a pris un acte qui entre dans ses attributions tout à fait constitutionnelles.
Oui. C'est constitutionnel, mais est-ce que c'est opportun? Parce que tout le monde sait qu'on s'attend aux élections locales.
Donc, vous voulez m'amener dans un débat où je dois dire si c'est opportun, ce n'est pas opportun. Il ne faut pas m'amener à commettre un crime de lèse-majesté. Donc, le président de la République a pris des ordonnances présidentielles portant mise en place de l'acte territorial. Donc, nous avons vu qu'il appartient maintenant aux différents administrateurs de se mettre à l'œuvre pour répondre aux désiderata de la population. Moi, je jugerai les administrateurs du territoire par l'ordonnance présidentielle.
Merci beaucoup, Monsieur le Président Vital Kamerhe. Nous passons tout de suite au premier thème de cette émission spéciale Dialogue entre Congolais avec vous. C'est bien la situation sécuritaire à l'est du pays. Ouvrons ce dossier par le Nord Kivu avec la poursuite des affrontements entre le CNDP de Laurent Nkunda et les FARDC. Après une courte accalmie, les armes crépitent à nouveau dans le territoire de Masisi et Rutshuru depuis ce mercredi matin. Des affrontements opposent en effet des FARDC au CNDP à Rugari, à 40 km au nord de Goma, dans le territoire de Rutshuru et Mweso, dans le Masisi. C'est à plus de 100 km à l'ouest de Goma. La MONUC signale par contre d'autres affrontements dans la zone de Nyanzale, toujours à l'ouest de Goma, dans le territoire de Rutshuru. Vital Kamerhe, est-ce que vous comprenez pourquoi ces combats se poursuivent malgré différents appels au cessez-le-feu?
Nous devons d'abord rappeler qu'en date du 23 janvier 2008, donc cette année, nous avons tous signé les actes d'engagement. Les FARDC, la partie gouvernementale, même j'avais signé comme président du comité des sages, les CNDP et tous les groupes armés. Nous ne pouvons donc pas comprendre que ces actes d'engagement qui avaient été aussi gratifiés du sceau et de la signature de la communauté internationale. Nous avions des représentants spéciaux de sécurité générale des Nations Unies, l'Union Européenne, les États-Unis d'Amérique, la CIAC, l'Union Africaine. Je peux vous donner le chapelet de tous les organismes qui étaient là-bas. Nous ne pouvons donc pas comprendre, après 8 mois d'accalmie, que les gens reprennent les armes alors que nous sommes en plein processus de normalisation de la situation sur le terrain. Et ceci dit, nous avons été donc sur place à Goma, vous le savez, à la demande du président de la République. Oui. Nous avons examiné la situation sur le terrain et nous sommes arrivés à la conclusion qu'il faut absolument que nous fassions la paix par les moyens le moins coûteux possible, en vie humaine et en matériel, c'est-à-dire en infrastructure.
C'est quoi ces moyens?
Nous avons opté pour la poursuite du programme à Mali, mais comme nous avons signé les actes d'engagement à sa disposition, à la disposition numéro 2, je crois, ces actes d'engagement parlent des ces actes d'engagement, parle de désengagement des forces sur le terrain. Donc, il était question que nous puissions élaborer et adopter un plan de désengagement. Ce plan de désengagement, c'était l'outil qui relève du domaine des militaires. Mais nous, les politiques, nous comprenons de quoi il s'agit.
Que vous avez adopté sans le CNDP, ça c'est connu.
Oui, nous l'avons adopté sans le CNDP, mais je voudrais vous dire tout de suite que les principes qui régissent le plan de désengagement sont d'abord universels. Parce que l'objectif poursuivi d'abord, c'est d'arriver à mettre fin aux affrontements sur le terrain et faire en sorte qu'ils ne reprennent plus. Alors, il n'y a pas plusieurs formules. Il faut commencer d'abord par faire les armes et ensuite, il faut séparer les gens et les mettre dans une distance où ils ne doivent pas s'affronter et en fait passer à d'autres étapes. De le plan, si le plan des principes universels, il n'y a aucune partie soucieuse de faire la paix dans le Nord Kivu et dans le Sud Kivu qui peut dire « Moi, j'ai requis ce plan-là ».
Parce qu'il n'est pas consigné par le CNDP, c'est pas
non. Ne vous en faites pas, le plan d'abord, nous pouvons en parler. Le plan dont nous avons demandé qu'il y ait une phase préliminaire, dès la réaffirmation du cessez-le-feu par toutes les parties. Parce que dès lors que les hostilités ont repris sur le terrain, toutes les autres phases deviennent illusoires. Il faut d'abord obtenir la cessation des hostilités sur le terrain. C'est la phase préliminaire. Mais le plan comporte deux grandes phases. La première, c'est la phase de consolidation du cessez-le-feu. Et dans cette phase, nous avons dit qu'il faut absolument que nous puissions poser un certain nombre d'activités pour consolider le cessez-le-feu. Quelles sont ces activités? Nous disons, dans cette phase-là, nous allons voir comment séparer les forces. Et ça, c'est le rôle de la MONUC. Là où les forces s'affrontent, puisque vous venez de me dire, à Moesso, je ne sais pas dans quel territoire, les hostilités ont repris. Alors, il appartient, puisqu'au terme de nos discussions, nous avons responsabilisé la MONUC pour faire appliquer les plans de désengagement. Donc, il s'agissait pour la MONUC, et c'est son rôle, de convaincre ou de contraindre toute partie signataire du plan ou de l'acte d'engagement des Goma. Alors, nous disons, on a d'abord séparé les forces. Il était entendu, dans un premier temps, qu'on puisse les mettre sur une course circulaire de 5 km. Pour se trouver dans les positions où elles vont se trouver à l'abri des armes lourdes des autres forces, pour éviter toute provocation ou toute possibilité de reprise des hostilités. Mais nous avons objecté en disant que toutes les zones de combat, telles qu'on les a décrites, il y en a peut-être 6, il y a même des sous-zones de combat, n'ont pas la même spécificité ou la même spécificité géographique. Il y a des coins où, si on vous demande de reculer de 5 km, à Rougari par exemple, vous reculez de 5 km et vous retrouvez au Rwanda. Est-ce qu'on va demander aux forces armées de la République démocratique du Congo de se retirer et d'aller rester au Rwanda? Nous disons non. Il y a des endroits où on vous demande de vous reculer de 5 km, vous vous retrouvez en plein lac Kivu. Alors, il a été entendu qu'il y ait au fait examen de chaque zone de façon spécifique et lui trouver la distance compatible avec sa géographie.
Là, vous êtes toujours dans le contenu, en fait, du plan de désengagement.
La consolidation du cessez-le-feu, c'est la première phase. Oui. Mais nous disons dans cette phase aussi, une fois les forces désengagées, on crée ce qu'on appelle la zone ou les zones désengagées. Mais qu'est-ce qui va se passer? Puisque quand les FARDC vont reculer, quand les CNDP vont reculer, je suis certain que et les FARDC et les CNDP, chacun de son côté va croire que l'autre va venir vite occuper la position qui lui est favorable par rapport à l'autre protagoniste. Alors qu'est-ce que nous disons? La MONUC doit occuper cette position, cette zone désengagée, mais avec la police nationale de la République démocratique du Congo, dans le cas du processus de rétablissement de l'autorité de l'État. Et au fur et à mesure que l'autorité de l'État va être rétablie, dont nous aurons l'administration publique, nous aurons ensuite la justice et toutes les autres fonctions régaliennes de l'État. Mais dans cette même phase, nous pensons aussi aux nombreux déplacés, dont nous devons créer des espaces humanitaires, de façon à ce que la population de Goma, de Rutshuru, voit les déplacés prendre le chemin de retour pour entrer dans leur milieu d'origine. Et dans cette phase, bien sûr, nous allons procéder à la suppression de toutes les barrières illégales.
Mais on n'en est pas là, tout ça c'est bien
la
bon.
La dernière phase, c'est bien bon, il faut commencer par la conception. La dernière phase, c'est la phase du désengagement proprement dit. Dans cette phase, nous avons, puisque dans la phase que nous venons de vous décrire, il sera aussi question de préparer les centres de regroupement et les centres de casernement des forces armées de la République démocratique du Congo, les centres de regroupement pour les groupes armés et les CNDP. Et dans la dernière phase, donc, c'est le mouvement des groupes armés et les CNDP vers les centres de regroupement. Une fois établis ou effectués, les FARDC à leur tour vont aller dans les casernes qui ont été définies et qui vont être construites d'abord avec les tentes et ensuite ça sera en dur pour se trouver dans une position où elles vont servir réellement à la défense du territoire. Mais la phase suivante, dans cette deuxième phase, c'est que les groupes armés, une fois regroupés, ils passent au maximum 15 jours dans le centre de regroupement. Ils vont se diriger donc dans le centre de brassage pour ceux des éléments qui auront choisi les métiers d'armes, ou alors dans les DDR, c'est-à-dire des armements, des mobilisations, réinsertion sociale, oui, pour ceux qui vont choisir d'aller dans la vie civile.
Oui.
Mais vous me posez la question, tout ça c'est 6 points.
Oui.
Voilà.
On va poursuivre, Monsieur le Président Vital Kamerhe. Je rappelle aux auditeurs que Vital Kamerhe est notre invité unique. Puisque nous parlons du plan de désengagement, je vous invite à suivre le ministre de l'Intérieur qui est président ou qui coordonne le comité de pilotage du programme Amani. Et pour lui, le programme Amani reste le seul cadre de négociation et de revendication. C'est l'une des principales décisions du comité de pilotage du programme Amani après sa rencontre tenue à Bukavu hier mardi. Décision annoncée par son président, le ministre de l'Intérieur, au cours d'une conférence de presse tenue ce mercredi avant midi à Bukavu. Pour le comité Amani, comité de pilotage Amani, une stricte observation du cessez-le-feu décrété le 19 septembre dernier permettra de faciliter le plan de désengagement présenté par la MONUC et approuvé par le gouvernement congolais. Le ministre d'État, Denis Kaloumé, est au micro de Delphine Amouto.
Les plans de désengagement, la confirmation de la cessation des hostilités que nous venons de présenter, c'est un signal fort, parce qu'il y a deux mots qui prévalent là-dedans, c'est convaincre et puis contraindre. La première action, c'est la séparation des protagonistes, les mettre en dehors de portée des armes et démilitariser la zone. Et dès ce moment où nous parlons, nous sommes déjà dans les processus de désengagement, parce que nous avons 15 jours pour préparer les centres de regroupement, 20 jours pour amener les gens dans les centres de regroupement, et 20 jours pour traiter les démobilisations et les réinsertions et permettre à ce que la situation redevienne normale.
Pour sa part, le CNDP affirme avoir reçu le texte du plan de désengagement. D'après Bertrand Bissimois, porte-parole du bureau politique de ce mouvement politico-militaire, le CNDP conditionne la signature de ce plan par des discussions directes avec le gouvernement dans un endroit où tout le monde trouve sa sécurité garantie. On écoute Bertrand Bissimois, Jean-Pardy, Angers, Yampala.
Nous avons ce plan, mais je dois vous dire que la confiance qui existait depuis la signature des actes d'engagement le 23 janvier 2008 s'est sensiblement détériorée. Donc aujourd'hui, il est impérieux que cette confiance soit rétablie entre les belligérants, surtout les vrais belligérants. Ce document, à ce que nous sachions, c'était une proposition que la MONUC a faite. Et nous considérons qu'on ne peut pas signer ce document de manière unilatérale. Nous devons le discuter avec le gouvernement qui est l'autre parti belligérant. Et pour que nous puissions le discuter avec la partie gouvernementale, nous devons nous retrouver à un endroit où tout le monde trouve sa sécurité garantie. Et c'est à ce moment-là que nous allons le discuter, l'amender et le signer.
Voilà. Vital Kamerhe, vous avez suivi d'abord le ministre de l'Intérieur qui dit que le désengagement est en cours avec comme principe convaincre et contraindre. Mais quand vous suivez le point de vue du CNDP, on a quand même l'impression que les points de vue restent divergents. Est-ce que vous pensez qu'avec ça, le plan de désengagement, on peut dire qu'il est en application déjà, alors que le CNDP campe sur sa position?
Non, vous savez, nous nous sommes posé toutes ces questions. Nous n'avons rien laissé au hasard, parce que nous sommes habitués à ce genre de processus. Rappelez que nous ne sommes pas à notre premier processus de désengagement signataire. Dans le cas du processus de Lusaka, la guerre d'agression qui nous avait été imposée par le Rwanda et l'Ouganda, et nous avions donc de l'autre côté l'RCD et l'MRC, souvenez-vous que nous avons été obligés d'aller élaborer le plan de désengagement de Kampala. Et nous avons par la suite élaboré des sous-plans de désengagement des Harare pour chaque zone spécifique de combat. Mais je vous dis que nous avons transpiré avant de convaincre tout le monde que la voie la moins coûteuse pour aller vers la paix, la normalisation dans notre pays, c'était de suivre ce plan-là. Aujourd'hui, l'histoire nous donne raison, puisque finalement, nous nous sommes retrouvés dans un gouvernement de transition avec Azarias Obero, avec Jean-Pierre Bemba, et on a organisé les élections.
Et qu'est-ce que vous voulez dire?
Et on a tué personne à Kinshasa.
Et qu'est-ce que vous voulez dire?
Je voulais dire par là que l'on veuille ou pas, car la communauté internationale est déterminée, on applique le plan des engagements. Il ne faut pas croire que le Rwanda a retiré ses troupes sur le territoire congolais de Gaieté de Caire. Il ne faut pas croire que l'Ouganda est parti du Congo comme ça par miracle. Il a fallu la fermeté du côté de la communauté internationale. Mais nous pouvons revenir sur le cas de l'Ituri. N'oubliez pas que pour le cas de l'Ituri, nous avions eu la condition de pacification de l'Ituri.
Tomba Lubanga et les autres groupes armés ont été réfractaires au changement et à l'application des résolutions que nous avions librement décidées et adoptées à Bunia. Mais il a fallu que la communauté internationale comprenne que soit il fallait modifier les mandats de la MONUC, soit prendre une résolution pour déployer une force spéciale
Artemis,
pour que tout le monde comprenne que quand il s'agit de vies humaines, quand il s'agit de sang des Congolais ou de tout autre humain, il n'y a pas de négociation possible. Je voudrais dire, je voudrais lui dire que je note d'abord qu'ils n'ont pas refusé le plan de l'engagement. Je note d'abord, je voudrais lui rappeler qu'il est, lui, Bertrand Bissima, et le CNDP, ils sont signataires des actes d'engagement de Goma. Ces actes d'engagement prévoient cette étape de désengagement de forces sur le terrain. Et je voudrais lui dire que nous tous, nous devons d'abord regarder du côté du peuple congolais. Est-ce que le spectacle que nous vivons dans les Massissi, dans les Rutshuru, quelle que soit la partie qui a provoqué le combat, à partir du moment où nos populations sont forcées de se déplacer en masse, le sang coule, est-ce que nous pouvons dire pour que nous arrêtions cette effusion de sang, pour que nous donnions de l'espoir à nos mamans, à nos enfants, à nos parents? Nous devons d'abord aller discuter dans un pays étranger. Mais nous disons ceci.
Donc, vous pas
on
fait le plan, les négociations
ne répondez pas à ma place. Mmh. Je vais répondre.
Mmh. C'est une question que je pose.
Je réponds à la question de la manière la plus claire. Et j'avais même déjà envoyé cette réponse pour rassurer les amis du CNDP que nous avons tenu compte de ce qu'ils ont dit. Mais nous disons ceci. Mmh. Le gouvernement de son côté dit, niet, le ministre de l'Intérieur vient de le dire. Mmh. Pour nous, il s'agit du programme Amani ou rien. Du côté du CNDP, ils disent, pour nous, il s'agit de négocier et puis nous emploie dans le plan des engagements, oui. Pas question de programme en Mali. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire, si on est raisonnable? C'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas de gagnants et de perdants.
Qu'est-ce que vous proposez à ce sujet?
Que nous avons proposé, et le président de la République l'a accepté, nous sommes très contents pour ça.
C'est quoi?
Monsieur Alandos l'a accepté, le représentant spécial secrétaire de la Nation Unie. Nous avons dit, il ne faut pas qu'il y ait de gagnants et de perdants. Nous acceptons tous que le programme en Mali est issu d'un processus que nous avons initié nous-mêmes et qui a été sanctionné par des actes d'engagement à Goma. Ça, c'est un. Nous devons plus y revenir. De deux, nous n'acceptions pas jusqu'à présent que le CNDP, en dehors de ce qu'il nous avait dit avant, puisse nous amener dans un processus parallèle ou discuter des questions à caractère politique. Nous disons, toutes les revendications du CNDP sont les bienvenues, mais dans le cas du programme Amani. Donc, ça signifie que d'un côté, les gouvernements qui avaient refusé jusqu'à présent d'écouter quoi que ce soit, du CNDP qui ne soit consigné sur le papier que nous avons signé à Goma, nous disons oui, le CNDP, soyez les bienvenus, dites-nous quel prix nous devons payer pour la paix au Nord Kivu. Nous sommes prêts à payer ce prix-là, mais qu'on nous le dise. Mais quand vous allez... Non, négociation, ce n'est pas un prix. Mmh. Quand vous allez au marché, il y a une marchandise qui s'appelle la paix. Mais moi, je voudrais la paix pour le peuple congolais. Nous demandons au CNDP de nous dire quel prix nous devons payer pour la paix. Et je voudrais ajouter ceci.
Oui.
La MONUC a reçu un rôle et s'est engagé. Ah, effectivement, puisque la phrase convaincre ou contraindre, nous avons tous l'adopté, ce n'est pas la phrase du ministre de l'Intérieur, nous l'avons tous adopté cette phrase-là. Nous avons dit, devant la tragédie humaine qui est en train de se dérouler sous nos yeux, il n'est plus question de dorloter qui que ce soit.
C'est la
force des armées de la République démocratique du Congo, tout le monde, tout celui qui va essayer de troubler la paix qui est la denrée rare que nous recherchons pour notre peuple, que vous appelez CNDP ou tout autre groupe, eh bien, nous avons dit à la MONUC, il faut passer maintenant à la phase de la contrainte par la force. Et si vous estimez que votre dispositif actuel, c'est-à-dire le dispositif actuel de la MONUC, n'est pas en mesure de remplir cette fonction, n'est pas suffisamment
dissuasif. Qu'est-ce qu'il faut?
Le représentant spécial secrétaire des Nations Unies a accepté. Faute d'Artemis II, a accepté, avec le plan des engagements, d'aller obtenir du Conseil de sécurité des moyens supplémentaires et peut-être le renforcement du mandat pour que la paix soit imposée dans le Nord Kivu. Il s'agit d'imposer la paix. Mais je voudrais vous dire encore autre chose.
Peut-être pour terminer au niveau du gouvernement.
Voilà, je voudrais terminer parce que nous ne nous sommes pas contentés seulement de rédiger et d'adopter un plan. Mmh. Nous l'avons assorti des mécanismes de vérification et de contrôle.
Mmh.
Mais nous avons dit, en janvier, on a commis une erreur.
Mmh.
L'erreur, c'était quoi? C'était d'adopter, de signer le plan de désengagement sans prévoir de sanctions. Cette fois-ci, on a prévu un barème de sanctions et la monnaie qui est chargée d'élaborer ce barème de sanctions.
Oui, merci beaucoup, Victor Cameron. On va poursuivre parce que la question de la situation sécuritaire, c'est pas seulement à Goma, mais aussi à Kisangani. Et là, nous allons écouter un auditeur de Kisangani. Sa question porte sur les rebelles ougandais de la LRA. Et les Mbororo, on l'écoute.
Je m'appelle Bernard Dipenja Bolimbo, je suis à Kisangani. Vous constatez que depuis un certain temps, après l'organisation des élections, il existe encore certaines poches d'insécurité dans les pays, notamment dans la province orientale. J'ai l'impression que nous avons, nous, la population de la province orientale, c'est que vous vous intéressez beaucoup plus à l'insécurité qui se passe à l'est du pays. Vous négligez la situation de Mbororo à Ambo. Vous négligez également la situation de l'armée de l'État des Seigneurs à Douma qui menace aujourd'hui la population. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est une politique de deux poids, deux mesures? Vous privilégiez beaucoup plus la province d'origine, vous négligez la situation qui se passe dans la province orientale.
Je vous ai vu sourire, Vital Caméré. Vous privilégiez donc le Kivu au détriment de l'Isangani. C'est cet auditeur qui le dit, votre réaction. Parce que vous avez suivi, je rappelle, vous avez peut-être suivi les rebelles ougandais qui ont enlevé une centaine d'écoliers au niveau de Douro.
Je voudrais informer Bernard Lissanja qu'au niveau de l'Assemblée nationale, pas moins de 10 résolutions concernant les Mbororo, les LRA, les SPLA. Au niveau du gouvernement, nous avons fait la pression nécessaire. Et je voudrais informer notre frère qui vient de m'appeler qu'il a été décidé, au niveau de la haute hiérarchie de l'État, de dépêcher le colonel Mundos, qui était le patron de la garde républicaine pour l'ensemble des provinces du Nord Kivu, du Sud Kivu et du Katanga, à la tête d'un contingent. Il est en train de prendre la logistique nécessaire pour se rendre à Bungu et dans tous les coins de la province orientale où la paix est constamment troublé par les éléments des Mbororo et des LRA et des SPLA. Je voudrais aussi ajouter ceci, que pas plus tard qu'hier, j'ai reçu les députés de Bas-Uele et de Haute-Uele qui sont venus me voir pour me dire, Monsieur le Président, nos électeurs ne nous croient plus. Ils croient que nous négligeons cette partie de la République démocratique.
Parce que ça traîne quand même.
Nous avons, donc, quand nous avons discuté à Goma au mois de janvier, il avait été décidé qu'un bataillon renforcé de nos forces armées de la République démocratique du Congo puisse aller dans cette partie du pays pour traquer tous ces malfrats et tous ces bandits qui font manquer le sommeil à nos populations.
Donc on peut dire que la réponse ou la réaction de FARDC, c'est pour sitôt.
Non, nous en tant qu'Assemblée nationale, moi, je ne peux pas parler à la place du Premier ministre, ça c'est pas mon rôle. Mais ce que je vais faire dans le cadre de ma mission de contrôle, certainement une question d'actualité sera encore posée au gouvernement par rapport à la situation en province orientale. Nous allons poser la question au Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, pourquoi, malgré toute la panoplie de résolutions en rapport avec la question de LRA, de Mbororo, le problème perdure? Ça, nous allons le faire. Et ça, c'est notre rôle.
Peut-être que cette fois-ci, il sera interpellé. Vous allez...
Absolument.
Vous allez accepter qu'il soit interpellé, peut-être.
Il le sera, sans problème.
Voilà, on va boucler ce dossier sur la situation sécuritaire avec des politiques. Thomas Loaka, député national du MLC, et Christian Kambinga, au cadre de l'ANP, qui se sont exprimés là-dessus, on les écoute.
La sécurité n'est pas du tout assurée comme l'aurait souhaité la population congolaise. Nous avons des problèmes avec nos services de sécurité. La réforme du secteur de sécurité a échoué dans notre pays. Pour ne vous donner que quelques exemples, notre armée nationale, aujourd'hui, l'État continue à payer à peu près 180 000 hommes, alors que le dernier recensement démontre que notre armée ne dispose que de 120 000 hommes. Deuxième problème, 63%, je dis bien 63% des éléments de notre armée est composé des officiers et des sous-officiers. Les hommes de rang, aujourd'hui, on en a que 37%. Donc, vous avez une armée où il y a plus d'officiers que des hommes de troupes et des combattants. Et ils sont tellement mal pris en charge qu'aujourd'hui, ils continuent à vivre sur le dos de la population. La conséquence, aujourd'hui, nous avons une armée qui n'est pas très efficace. On voit ce qui se passe à l'est du pays.
Face à cette position du MLC, Christian Kambinga, au cas de l'ANP, répond.
C'est une grande préoccupation pour le gouvernement, pour l'ANP. Nous utilisons toutes les voies diplomatiques offensives pour arriver à amener la paix à l'est du pays. Vous savez que toutes les guerres se finissent toujours autour d'une table. Nous sommes très conscients de ça. C'est pour ça que vous voyez que le chef d'État multiplie ses efforts à tous les niveaux pour permettre que la paix revienne dans ce coin de la République. Il faut aussi savoir une chose, que nous avons une armée qui est en gestation. La plupart des frontières de notre pays avaient été sous le contrôle de rebelles. Nous sommes sommes dans la phase de formation d'une armée, madame. C'est pour ça qu'on s'entraîne au niveau du gouvernement pour qu'il y ait ce brassage pour arriver enfin à avoir une armée digne de ce grand pays.
Michel Caméré, en un mot, une armée de 63% d'officiers et 37% d'hommes de rang, ça c'est Thomas Loaka qui le dit, avec une telle armée, vous pensez que les Parisiens peuvent l'emporter?
Non, sans confirmer les statistiques de l'honorable Thomas Loaka, nous tous Congolais, nous sentons la nécessité d'avoir une armée dissuasive, une armée qui va permettre la défense du territoire national. C'est pourquoi au niveau de l'Assemblée nationale, dans les discours d'ouverture, nous avons dit que le budget 2009 sera essentiellement de la défense et sécurité et du social. Parce que qu'on ne nous vienne plus nous parler des routes qu'on doit construire ça et là, parce que le problème des routes a été pris en compte dans le cadre des contrats chinois. Donc il y a suffisamment de moyens pour s'occuper de l'armée, de la police, des services de sécurité, surtout des enseignants, des médecins et des fonctionnaires de l'État.
On va parler des fonctionnaires, mais l'armée, est-ce que l'armée congolaise aujourd'hui, les FARDC, est-ce qu'elles sont, elles sont prêtes pour une guerre? Parce qu'on le voit, elle a du mal à venir à bout de troupes d'Nkunda.
Non, notre armée, je dois dire, qu'elle n'est pas minimisée. Chaque jour qui passe, notre armée est en train de s'améliorer. Mais il y a longtemps, il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, j'allais dire, quand il y avait des attaques comme ça, c'était des localités qui tombaient, c'était des territoires entiers qui tombaient. Mais c'est depuis des semaines qu'on annonce la chute de Goma. Et Goma n'est pas toujours tombé. Moi, je ne souhaite pas que la guerre continue. Puisque même si notre armée arrivait à l'emporter sur Nkunda, ça sera au prix du sang de mes parents, de mes frères, de mes sœurs. Moi, je crois que nous devons, et c'est un appel que je lance à Nkunda et à tous ces hommes, nous devons privilégier la voie qui va épargner inutilement de pertes de vies humaines. C'est cela que nous devons dire. Pour le moment, l'armée n'est pas là pour se battre à l'intérêt du pays. Ça, c'est la distraction qui nous est imposée par des groupes armés. Parce que sinon, l'armée devait être là pour la défense du territoire. Et, soit dit en passant, nos militaires se défendent tant bien que mal, mais je crois qu'ils se défendent mieux qu'avant.
Merci beaucoup, Vital Kamerhe. Spécial dialogue entre Congolais avec le président de l'Assemblée nationale. Deuxième thème de cette émission, le fond social. Il est marqué par la grève des enseignants, des infirmiers ainsi que du personnel médical. Les enseignants, par la voix du secrétaire général du syndicat des enseignants du Congo, SIECO, Jean Kimbuya, souhaite que l'Assemblée nationale, en tant qu'organe législatif et budgétaire, interpelle le gouvernement en ce qui concerne l'augmentation de leur salaire. On écoute Jean Kimbuya au téléphone de Guy Régénien-Pala.
Nous attendons beaucoup de l'Assemblée nationale en tant qu'organe législatif et budgétaire parce que nous en avons ras-le-bol avec le gouvernement qui n'est pas proactif. Nous croyons que l'Assemblée va interpeller le gouvernement pour que le gouvernement puisse répondre. Nous sommes au mois de septembre maintenant. Le budget a pris à partir de la promulgation au mois de janvier. Mais nous avons découvert que le gouvernement n'avait jamais appliqué l'augmentation des salaires. C'est juste vers la fin de l'année. Et nous croyons que le gouvernement vraiment va se tenir. Et de même pour 2009, pour que nous n'arrivons plus à ce genre d'incident. Il suffit pas de prendre des accords, mais il faut les appliquer.
Sur le même front social, Valentin Moubaké, président du Comité national de l'UDPS, fustige l'absence de contrôle dans la gestion des ressources et finances publiques. On l'écoute.
La grogne dans la fonction publique, de manière générale, tourne autour des salaires, du genre même de la rémunération de cette catégorie des agents de l'État. L'État n'arrive pas, manifestement, à allouer aux agents de la fonction publique une rémunération décente qui permette à ces agents de faire face à certains besoins élémentaires. Nous sommes un État, un pays sans moyens, sans agriculture développée, sans aucune industrialisation et donc qui ne peut avoir dans ses caisses que le produit des taxes, des impôts, mais qui eux aussi sont engloutis dans cet environnement de corruption généralisée. Nous n'avons jamais cessé de dire que la solution à court terme pour un pays comme le nôtre réside dans le contrôle de notre État de ses ressources naturelles.
Vital Kamerhe, qu'est-ce qui vous empêche, vous, autorité de la RDC, de payer les enseignants et les infirmiers qui sont en train de...
Il n'appartient pas à l'Assemblée nationale de payer. L'Assemblée nationale alloue les crédits budgétaires. Et j'ai bien noté que Jean Kimbuya nous demande d'interpeller le gouvernement pour savoir pourquoi le gouvernement n'arrive pas à payer convenablement les fonctionnaires, les enseignants, les médecins, tous ceux qui relèvent ou émargent au budget de l'État. Je voudrais l'informer qu'il est en retard, parce que sur ma table, il y a déjà plus de 4 interpellations du Premier ministre au sujet du social. Donc, il peut se tranquilliser. Les interpellations, il y en a.
Et on tend vers la fin de l'année, parce que ce budget devait être appliqué depuis le mois de janvier.
Voilà, c'est pourquoi justement il y a interpellation. C'est pourquoi justement dans les discours d'ouverture, on avait dit qu'il faut que le gouvernement vienne nous expliquer pourquoi on nous a fait voter un budget pour ne pas l'appliquer, même pas à 50%. Je voudrais dire à Valentin Moubaké qu'il a raison. Il a raison, parce que au fait, il faut d'abord maîtriser les finances publiques, il faut maîtriser le contrôle et les effectifs de l'État. L'argent qui sort, est-ce qu'il est destiné à 150 000 personnes ou bien c'est 20 000 personnes et la différence rentre dans les poches des individus? Ça, c'est très important. Ça peut dégager des économies substantielles pour modifier déjà les trains de vie des fonctionnaires, agents de l'État, policiers et militaires. Mais nous disons, et là où il a lié dans mes pensées, le Congo ne sera pas sauvé par les mines, les cuivres et les diamants, non. Le Congo sera sauvé le jour où nous allons nous réveiller pour relancer l'agriculture dans notre pays, l'élevage et la pêche, comme en 1960.
J'espère que le ministre de l'État va vous tout suivre.
Non, que le peuple congolais me suive, parce qu'il appartient à chacun de nous de prendre un petit lopin de terre là où il est pour essayer de le produire. Mais pour cela, il faut que l'État trace les lignes de politique générale.
Voilà. On va continuer pour terminer, puisque le plan social, par cette réaction de l'habitant de Kinshasa, je vous signale qu'il n'est pas très complaisant avec vous. On l'écoute.
Je m'appelle M. Gustave Mutombo, je suis à Kinshasa. Puis moi, j'étais M. Kamer, j'allais demander la démission. Parce que le pays est par terre. Qui est-ce que on n'a pas de droit, le chômage partout, le grève partout, mais on n'a pas de boulot.
Qu'est-ce que vous lui répondez? Lui vous demande de démissionner parce qu'il pense que le pays est par terre, il n'y a pas de courant, pas d'eau. Qu'est-ce que je lui réponds?
Non, vous n'avez pas bien compris ce qu'il a voulu dire. Moi, j'ai compris ce qu'il a voulu dire. Il a dit qu'il était président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe. Il avait demandé au gouvernement de démissionner.
Moi, j'ai compris qu'il a demandé à vous.
Non, il appartient au gouvernement d'éveiller au quotidien du peuple congolais. Il y a la répartition des tâches. Et je voudrais dire à mon frère, et je lui donne raison, c'est ce que nous allons demander au gouvernement
de démissionner.
Avant longtemps. Oui.
De démissionner.
On va lui demander, s'il n'arrive pas à remplir ses missions élémentaires, on va demander au gouvernement de démissionner. C'est aussi simple que ça. C'est ça la démocratie.
En tant que vous accusez, Vital Kamerhe, d'avoir à plusieurs reprises sauvé le gouvernement.
Oui, sauver le gouvernement, non. Sauver le pays d'une autre
guerre. Quand il est interpellé, je veux dire.
Non, sauver le pays d'une autre guerre inutile. Vous savez que de la même façon que nous faisons face à la guerre à l'Est, si nous ouvrons un autre front ici sans nous y préparer sérieusement, le front politique, c'est un front très redoutable.
Je sais que maintenant, vous êtes préparé.
Non. Il fallait d'abord donner la chance au Premier ministre Antoine Gizenga de prouver ce qu'il peut faire au peuple congolais.
Il a prouvé, selon vous?
Non, nous estimons qu'après une période de plus de 18 mois, il doit venir devant la représentation nationale pour nous dire est-ce que le problème se situe à son niveau, ou il y a des obstacles qui l'empêchent de travailler. À ce moment-là, nous pouvons enlever ces obstacles-là et il va travailler. Est-ce que c'est un problème des ministres qui ne sont pas compétents? À ce moment-là, on va lui demander de former un autre gouvernement. Est-ce qu'il estime que nous pouvons continuer tel que nous sommes là et espérer avoir encore la confiance de notre peuple? Nous disons non. Les contrats chinois ont été annoncés au gouvernement avec fracas, avec pompe. Nous avons même posé la question au ministre des Travaux publics et infrastructures. Monsieur le ministre, est-ce que vous pouvez nous dire quand, à tel jour, le boulevard de Kinshasa, on avait appelé ça autoroute, ça va démarrer. Il nous a dit le 1er août. Nous sommes aujourd'hui
en septembre,
le 24 septembre, mais ça n'a pas commencé. Alors, nous devons savoir, le problème se situe à quel niveau? Au niveau de prévision, au niveau de la vision ou au niveau de la gestion? Voilà la question que nous devons poser au Premier ministre sans entrer en guerre contre le gouvernement. C'est notre rôle en tant qu'Assemblée nationale.
Voilà, donc on va suivre cette session que vous ouvrez vendredi, si je pense.
On a déjà ouvert, mais nous avons plénière.
Voilà, donc on va suivre et avec espoir que le gouvernement sera interpellé avec toutes les promesses que vous venez de faire. J'appelle que nous recevons Vital Kamerhe comme invité unique dans ce spécial dialogue entre Congolais. On va terminer par ce dernier dossier. Il s'agit du rôle de l'Assemblée nationale. Avant tout, vous avez confirmé que la plénière c'est pour vendredi à l'Assemblée nationale, mais déjà on a suivi votre le premier vice-président de l'Assemblée nationale, donc votre adjoint Christophe Lutundula, il a dit, même le président du Sénat l'a dit aussi, que le gouvernement n'a pas encore déposé le projet de budget 2009. Est-ce que vous l'avez ou la situation n'a pas évolué, Vital Kamerhe?
Oui, au terme de la constitution de la République démocratique du Congo, le dépôt du budget par le Premier ministre se fait le 15 septembre au plus tard. L'exception, c'est-à-dire quand le Premier ministre l'a fraché, on le laisse jusqu'à 15 jours avant la fin de la session. Et s'il ne le fait pas, le gouvernement tombe automatiquement. C'est ça la règle, c'est le plan de la Constitution. Et nous devons constater avec vous que le budget n'est pas encore déposé. Et nous avons refusé cette fois-ci qu'on vienne nous faire travailler à une vitesse qui ne va pas nous permettre d'être sereins pour déceler tous les problèmes qui se trouvent dans la loi budgétaire. Et je voudrais dire aussi, ça rencontre déjà les préoccupations des syndicalistes, oui. Ça a été dit dans le discours d'ouverture, nous avons décidé, nous allons y veiller. Il faut impliquer les syndicalistes en amont comme en aval.
Vous l'avez fait déjà.
Attendez, en amont, il doit participer à l'élaboration du budget. En aval, quand vous impliquez les syndicalistes, je vous jure qu'ils vont déceler toutes les filières de fraude et de disparition d'argent.
C'est ce que je dis. Vous les avez déjà associés?
Non, on ne les a pas associés au contrôle. On l'a fait un jour ou deux jours et puis on les a écartés. Et quand on les a associés, ils ont démontré qu'ils peuvent récupérer beaucoup d'argent.
Merci beaucoup. On va suivre le son de votre adjoint. Je vais parler du premier vice-président, du bureau de l'Assemblée nationale. À l'ouverture de la session plénière, la bonne exécution du budget est aussi largement tributaire du suivi que les députés nationaux doivent en assurer dans le cadre du contrôle parlementaire. C'est la déclaration de Christophe Lutundula, premier président de l'Assemblée nationale, le 15 septembre dernier. Toujours selon lui, apparemment, les députés n'ont pas fait suffisamment bon usage des mécanismes de contrôle parlementaire et budgétaire prévus par la Constitution, ainsi que par le règlement dans l'intérieur de l'Assemblée nationale. On écoute Christophe Lutundula au micro de Radio Okapi.
Mesdames et Messieurs les députés, chers collègues, la bonne exécution du budget est aussi largement tributaire du suivi que nous devons assurer dans le cadre d'un contrôle parlementaire. Apparemment, nous n'avons pas encore suffisamment fait bon usage de mécanismes de contrôle parlementaire et budgétaire prévus par la Constitution ainsi que par notre règlement intérieur. Votre bureau voudrait vous rassurer de la manière la plus formelle que les choses vont changer dans ce domaine.
Qu'est-ce qui va changer, Vital Kamerhe? Mais avant d'arriver à qu'est-ce qui va changer, est-ce que vous partagez ce discours de M. Christophe Lutundula?
C'est mon discours, je l'assume.
Vous l'assumez, et qu'est-ce qui va changer?
Ce qui va changer, c'est que la période, je n'allais pas dire de récréation, d'observation, est terminée. Mmh. Parce que comme nous sommes une jeune démocratie, il fallait y aller mollo. Il ne fallait pas, dès le premier mois, descendre le gouvernement. Il ne fallait pas... Quand on interpelle le ministre pour qu'il parte tout de suite, ça peut créer un malaise dans une jeune démocratie. Mais nous estimons que cette période d'observation est totalement consommée. Et nous passons maintenant à la période d'abord d'évaluation de toutes les recommandations et résolutions que nous avons formulées à l'endroit du gouvernement, y compris la question de Mbororo et des LRA qui reviennent chaque jour. C'est plein de recommandations et de résolutions au niveau du gouvernement qui n'ont pas connu le moindre débit des exécution. Même les résolutions, les recommandations dans l'affaire Mounoudia Congo, ça se trouve au niveau du gouvernement. Les résolutions dans tous les domaines où la vie sociale a été troublée. Alors, donc, ce qui va changer, c'est que ça ne sera plus de discours pour venir dire aux députés, cherchons comment atterrir en douceur. Ça sera cette fois-ci un atterrissage forcé chaque fois. Quand un ministre a failli à sa mission, on les descend. On les remplace par un autre. On n'a plus de temps à perdre. Le temps joue contre nous.
Pourtant, à travers votre discours lu par Christophe Lutundula, vous reconnaissez vous-même que vous n'avez pas suffisamment joué ce rôle.
Oui, nous le reconnaissons. Où est le problème? Nous le disons.
Et qu'est-ce qui vous a empêché de bien jouer son rôle?
Voilà, ce qui nous a empêché, c'était la préservation de la paix sociale sur le plan politique en tant que jeune démocratie. Il ne fallait pas commencer par des crises gouvernemental où on va faire tomber le gouvernement dès le premier mois. Non, il fallait le laisser d'abord.
Comme il est de la majorité, vous-même vous êtes de la majorité,
oui. Fallait le laisser. Mais il n'y a pas de honte à cela, ça se passe partout comme ça, en France, aux États-Unis d'Amérique. Mais nous sommes quand même en avance par rapport à beaucoup de pays à vie et démocratie, puisque chez nous, en peu de temps, nous avons interpellé quand même beaucoup de ministres de la famille.
Mais ça vous dessert si vous avez un gouvernement qui ne répond pas aux désirata de la population. Vous le protégez parce qu'il est de la majorité, mais finalement, ça vous dessert.
Je suis d'accord avec vous. Je vous ai dit que cette période d'observation est terminée. Donc, il n'en sera plus ainsi dorénavant. C'est pourquoi le gouvernement sera interpellé. Le Premier ministre viendra nous dire qu'est-ce qui n'a pas marché. Peut-être qu'il a raison. Peut-être qu'il a tort, mais nous ne pouvons pas juger maintenant. On va lui donner l'occasion de venir s'expliquer devant la représentation nationale.
Voilà, nous allons tous attendre. Mais avant de terminer, on va d'abord suivre deux auditeurs, l'un de Lubumbashi et l'autre de Kananga, qui s'expriment toujours par rapport à ce qu'ils attendent de vous.
Je m'appelle José Mouyumba, je suis à Lubumbashi. Actuellement, nous, la population, nous constatons vraiment que l'Assemblée nationale ne fait pas son rôle qui lui est reconnu par la Constitution, de contrôler l'exécutif. On voit, il y a une sorte de statu quo dans le fonctionnement du gouvernement Gizenga. Ils ne sont pas tellement interpellés à pouvoir mieux assumer leur rôle. C'est comme si l'Assemblée ne voit pas ce qu'elle doit faire actuellement. Nous, étant la population, nous ne sentons pas vraiment le rôle, le travail de l'Assemblée nationale.
Voilà, c'était à Lubumbashi. On va à Kananga pour écouter cet enseignant, père de plusieurs enfants qui s'adresse à vous aussi.
Je m'appelle Boniface Beyanyendou, ville de Kananga. Je suis enseignant, licencié avec 30 ans de carrière, père de famille nombreuse. Je touche irrégulièrement 56 000 francs congolais. Comment le budget que vous allez bientôt voter, toujours inférieur au budget de tous les pays voisins qui convoitent nos fabuleuses richesses, pourra-t-il répondre aux besoins fondamentaux de nos populations quand nous savons que les dirigeants congolais ne veulent pas partager la pauvreté du peuple?
Et alors, mais quel budget 2009? Comment vous voyez le budget 2009?
Non, je commence par le professeur Boniface Beyanyendou, une question très intéressante qui nous a interpellés, parce que chacun de nous doit être interpellé dans sa propre conscience. Nous avons interpellé au niveau de l'Assemblée nationale, nous avons tenu la conférence des présidents pour dire à l'Assemblée nationale, on ne modifie rien, on n'ajoute rien aux députés ni aux membres du bureau. Et nous avons reçu le même son de cloche du côté du gouvernement et du côté du président de la République. Et nous avons tous convenu que ce budget-ci, dans une grande transparence, soit le budget de la défense et sécurité, c'est-à-dire le social des militaires, l'équipement et la formation de nos bataillons et de nos brigades.
Oui.
Mais que ce budget-ci soit le budget du social, c'est-à-dire l'amélioration des conditions de travail et salariales des enseignants, des médecins et des fonctionnaires.
Donc avec une bonne tension salariale,
c'est pourquoi j'ai dit aux camarades Boniface Beyanyendou qu'eux-mêmes vont mettre la main à la pâte. C'est pourquoi je voudrais que les syndicats soient impliqués en amont comme en aval.
Et ça ne part pas de la poudre vieux comme avant.
Non, c'est-à-dire, c'est pour réchuter si la question de José Mouyumba.
Oui.
Nous allons, et il a raison quand il dit que nous n'avons pas suffisamment contrôler l'exécutif, nous l'avons contrôlé, mais nous n'avons pas suffisamment tiré les conséquences des différents contrôles que nous avons faits, pour des raisons que je viens d'expliquer. Donc quand nous combinons la préoccupation du professeur Boniface Beyanyendou, celle de donner au peuple congolais un budget juste, où tout le monde prend sa part de misère nationale,
y compris vous,
nous tous, voilà.
J'espère cette fois-ci.
Voilà, je suis d'accord avec vous. Et d'autre part, nous contrôlons le gouvernement pour qu'il applique réellement le budget, nous pourrons atteindre cet objectif. Mais nous avons ajouté un autre élément. Nous avons dit, puisque chaque fois quand nous faisons venir nos amis du gouvernement, ils nous disent qu'avec le programme du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale, ils ne peuvent pas faire ces choses-là. J'ai reçu moi-même dans mon bureau la délégation du Fonds monétaire international pour dire, monsieur, cette fois-ci, nous voulons vous dire que nous sommes là parce que le peuple congolais l'a voulu. Et on ne peut pas ne pas améliorer le salaire de nos fonctionnaires.
Merci beaucoup, Vital Kamerhe, qui était notre invité unique dans ce spécial dialogue entre Congolais. Alain Goy était à la technique, Claude Kanzalo Kangou était à la réalisation avec le concours de Guy Roger Nyampala, Guy Maté, Kelly Kouté, Didier Ogobani, devant le micro, Jean-Claude Toumbakamanga. Au nom de toute l'équipe, je vous dis merci de nous avoir suivis. Thank you.
Oh, happy.